Radio Okapi. Bienvenue à cette édition de 18h que vous présente Belinda Bossouma. Voici le sommaire. V-Club face à l'Est-Cessif d'Algérie, demain dimanche à Kinshasa. Les Congolais souhaitent que le trophée continental revienne à la RDC. L'entraîneur Florent Ibengue de Vita Club s'est dit serein, vous l'entendrez dans ce journal. Inauguration ce samedi à Kisangani du nouveau pont Tshopo 2 par le président Joseph Kabila. Les travaux ont été financés par le Trésor public et le FONER. Coût de l'opération, 3 950 000 dollars américains. Et à propos des récents massacres des civils à Beni, le ministre de l'Intérieur annonce l'arrestation des suspects. Richard Mouyege dit ne pas s'opposer à l'idée d'une enquête internationale. Madame, Messieurs, bonsoir. Sport pour commencer. En football, c'est demain dimanche que la finale aller de la Ligue des champions de la CAF 2014 se joue au stade Tata Raphaël de Kinshasa. L'association sportive Vita Club va donc s'expliquer face à l'Est-Sétif d'Algérie. En RDC, tous ou presque ne jurent que par la victoire des Verts et Noirs. Hier vendredi, les dirigeants membres du staff technique et joueurs de cette équipe ont été reçus à la primature par le Premier ministre. Nous vous accompagnons, le chef de l'État Joseph Kabila, en premier pour que le trophée continental puisse revenir à la RDC, a déclaré Augustin Matata Ponyo à l'issue du tête-à-tête avec le Premier ministre. Florent Ibengue, l'entraîneur de V-Club, s'est dit serein. Suivez.
Nous sommes sereins, on prépare le match comme on l'a fait d'habitude, sans trop se mettre la pression et pouvoir se libérer et garder toute notre énergie pour ce match de dimanche. Mais le fait de se retrouver ici, vous voyez bien que ça dépasse le cadre de notre vie habituelle. Là, on est investi d'une mission, de la population tout entière, à travers le gouvernement et le président de la République. Derrière eux, c'est tout le pays, c'est tout le peuple. Donc, ça donne des responsabilités supplémentaires. Mais on va travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant pour renverser la montagne qui se trouve devant nous.
L'entraîneur de Vita Club, Florent Ibengue, était au micro de la RTNC. Direction la province orientale où le chef de l'État Joseph Kabila a inauguré ce samedi à Kisangani où il séjourne le nouveau pont Tshopo 2 jeté sur la rivière portant le même nom. Les travaux réalisés par les ingénieurs de l'Office des routes ont été financés par le Trésor public et le Fonds national d'entretien routier à hauteur de 3 950 000 dollars américains. La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs autorités tant nationales que provinciales ainsi qu'un grand nombre des Boyomés venus pour la circonstance. André Kitenge, reportage.
C'est dans une ambiance de fête que le chef de l'État congolais a coupé le ruban symbolique donnant accès à ce nouveau pont dont les travaux ont duré 4 mois. Selon le ministre des Travaux publics et Reconstruction, ce pont figure parmi les premiers éclairés modulaires en République démocratique du Congo disposant de 2 trottoirs. Pour le gouverneur de province, le pont Tshopo 2 est désormais l'ouvrage de connexion entre les parties nord et sud de la ville. Jean Bamanissa Saïdi.
Aujourd'hui, je peux affirmer que le Bas-Velay n'est plus inaccessible depuis la réhabilitation de la route jusqu'à Akéti. Les produits agricoles différents tels que l'arachide, le coton et autres pourront donc approvisionner la ville de Kisangani.
De leur côté, les autorités provinciales estiment que ce pont facilitera l'écoulement des produits à l'intérieur de la province et dans la ville de Kisangani. C'est le cas du ministre provincial en charge de l'intérieur, Pierre-Hubert Molisson-Ndolo.
Ça va permettre qu'il y ait une mobilité sans risque entre la ville de Kisangani et l'arrière-province, ce qui va faire que il y aura franchement un déclenchement sur le plan économique de beaucoup de choses.
Même sans des cloches de la part du ministre Fridolin Kasuishi, pour qui ce nouveau pont est non seulement d'une importance capitale pour la ville de Kisangani et la province orientale, mais aussi pour la République démocratique du Congo et les sous-régions de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Restons sur les routes, mais cette fois sur l'axe Kananga-Kalambambouji. Nous sommes au Kasaï-Occidental. Le sénateur et grand chef coutumier Emery Kalamba Wamfwana se réjouit de la poursuite des travaux de construction de cette route longue de 220 km. Selon lui, cette route de l'espoir a une importance capitale du fait qu'elle va faciliter entre autres les échanges commerciaux entre le port de Lobito en Angola, le Grand Kasaï, la province du Maniema et le sud de la province du Katanga. Déclaration faite au cours d'un point de presse ce samedi à Kinshasa, Emery Kalamba demande par conséquent à la population congolaise dans son ensemble de soutenir ce projet qui va désenclaver la grande partie du centre de la RDC. Ces propos ont été recueillis par Richard Junior Kamunga.
Pour moi, c'est la route de l'espoir. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement pour un commerçant canongais qui importe de Dubaï ou bien de Chine? Son conteneur mettra, s'il vient donc de Dar es Salaam, Lubumbashi, Kananga, 6 mois. Okay? Parce qu'en fait, c'est vrai que de Dubaï à Dar es Salaam, c'est 3 semaines. Peut-être qu'avec le train de Dar es Salaam à Lubumbashi, c'est peut-être 1 semaine. De Lubumbashi à Kananga, ça fait son essai. C'est lui qui importe par la voie nationale. C'est pareil. Ce qui va se passer, c'est quoi? Quelqu'un qui importe de Afrique du Sud, Cap, en 4 jours, tu es à Mbito ou à Luanda. En 1 jour, tu es à la frontière. Parce que les routes sont très bonnes. Donc voilà, ça va changer complètement. Entre 3 semaines, 1 mois, disons, grosso modo, et 6 mois, il y a un grand différent. On est à 75, 76 kilomètres de Kalambambouchi. Donc la route est quasiment faite.
Signalons que les travaux de construction de cette route, qui pourront se terminer en mi-janvier 2015, sont exécutés par des Chinois. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur annonce l'arrestation des suspects présumés auteurs des massacres des civils à Béniville et Béni Territoire. Richard Mouyej-Manguez l'a annoncé ce samedi à partir de Béniville, où il est en mission depuis quelques jours pour faire face à la situation sécuritaire dans la zone. Pour le ministre de l'Intérieur, le gouvernement n'est pas opposé à une enquête internationale pour savoir les vrais auteurs de ces massacres. Richard Mouyej, interrogé par Martial Papi-Moukeba.
L'enquête se fait parce que nous avons arrêté quelques suspects, je ne veux pas vous dire combien, et ils sont en train d'être interrogés. Je suis en train de sourire quand j'entends des gens parler sur des chaînes périphériques parce que je constate qu'ils suivent de près la situation. Et beaucoup d'entre eux savent ce qui se passe exactement. L'objectif de l'ennemi, c'était de dresser la population contre ses dirigeants. C'était de séparer la population de son armée. Malheureusement, mes frères et sœurs de Béni sont très aguerris. C'est des gens fortement politisés. Ils sont très lucides et ils sont restés debout.
Êtes-vous sur la bonne piste pour savoir les vrais auteurs de ces tueries, surtout que vous parliez des rebelles ougandais de la DEF?
J'ai appris qu'il y a même des gens qui demandent une enquête internationale. Je ne m'oppose pas à cette idée, surtout que les renseignants commencent à être identifiés. Il y en a un qui a dit qu'il était fortement informé et je suis heureux que les enquêteurs puissent avoir une tâche facile.
Cette annonce du ministre de l'Intérieur intervient quelques heures après l'appel du président du RCD-KML à une enquête internationale contre les massacres des civils à Béni. L'opposant Moussa Niamouissi a déclaré ce matin sur RFI que ces massacres est l'œuvre des rebelles ougandais des ADF en complicité avec le responsable des FARDC à Béni. L'actualité, c'est aussi ce face-à-face. Secrétaire général du PPRD, Évariste Boshab, jeunesse du mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR. La rencontre a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, au siège même du parti cher à l'opposant Jean-Claude Nouvemba. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences-débats initiées par cette jeunesse autour du thème « Nécessité et opportunité de la révision constitutionnelle face à la stabilité des institutions ». Pour Évariste Boshab, au terme de ce débat, il est important de savoir qu'il n'y a pas de constitution irrévisable. Par conséquent, la question sur la révision de la constitution congolaise ne vaut plus la chandelle, selon lui. Explication, Jacques-Yves Molima.
Jetant un regard sur la constitution du 18 février 2006, eu égard aux différentes positions exprimées jusqu'ici par la classe politique et autres organisations, le professeur Évariste Boshab n'est pas allé par quatre chemins. Le secrétaire général du PPRD est resté constant en énonçant trois principes.
En premier lieu, il n'y a pas de constitution irrévisable, ça n'existe pas. Sinon, ce n'est plus une constitution. J'ai également dit qu'il n'y a pas, où que ce soit, quel que soit les continents, quel que soit le pays, unanimité autour de la révision d'une quelconque disposition constitutionnelle. En troisième lieu, je dis que les dispositions dites irréformables, pour ma part, ce sont des dispositions morales.
L'assistance a par ailleurs posé plusieurs questions à l'orateur du jour, portant justement sur la révision constitutionnelle en RDC. Des questions auxquelles l'orateur est resté imperturbable quant au fond de sa ligne de conduite, ce qui a poussé le président de la jeunesse du MPCR, Elvis Bolungu, de souligner la position du professeur Évariste Boshab.
Le professeur Boshab a engagé un débat tout à fait politique, puisque nous avons tout simplement compris que la démarche qui a été engagée par la majorité présidentielle, c'est une démarche tout à fait politique et non juridique.
Le débat reste ouvert et la jeunesse MPCR attend écouter dans l'avenir d'autres orateurs.
Dossier Fidèle Babala et consorts à Mbandaka, le groupe parlementaire des députés du MLC et alliés salue la décision de la Cour pénale internationale du 22 octobre dernier accordant la liberté provisoire à leur secrétaire national chargé des questions stratégiques et politiques et ses co-accusés. C'était dans l'affaire qui les opposait à la procureure de cette juridiction internationale. Ces députés du MLC exigent par ailleurs l'acquittement de leur leader Jean-Pierre Bemba Gombo. Je vous propose d'écouter Bienvenue et Simba, rapporteur au micro de Ghislaine Ntobo.
Le groupe parlementaire du MLC est allié au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Salue avec satisfaction incommensurable la décision prise par le juge de la Cour pénale internationale dans l'affaire Fidel Babala et ses co-accusés. Le mouvement de libération du Congo continue à faire confiance à la justice internationale et exige l'acquittement pur et simple dans un avenir proche de son président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui se trouve lui aussi incarcéré injustement depuis plus de 6 ans à La Haye dans cette juridiction judiciaire internationale, sans que la moindre preuve de culpabilité soit établie à l'endroit de ces derniers. Étant entendu qu'il est démontré, tant sur le plan de l'échiquier national et international, que ce dernier est innocenté sur toute la ligne. Le groupe réitère indéfectiblement son soutien sans conditionnalité au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, considéré par toute la nation congolaise comme un léviathan qui conduira notre pays à bon port.
Ainsi s'achève ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, la coordination de Noéla Luzitu et la mise en onde de Mimi Kindou. Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur Radio Okapi. 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 Radio Okapi.